Europe 1, c'est arrivé demain.
Bonjour Bernard-Henri Lévy.
Bonjour.
Vous n'avez pas perdu votre temps pendant le confinement. Vous publiez dans 3 jours chez Grasset ce virus qui rend fou. Livre énervé, parfois injuste, excessif, mais stimulant, brillant, à contre-courant des obsessions de la peur et de la peur qui nous ont submergés pendant plus de 2 mois, qui nous ont aveuglés, qui nous ont fait gober n'importe quoi. Et votre premier énervement, il est dirigé contre les médecins qui nous ont imposé un ordre sanitaire et hygiéniste. Vous les traitez d'apprentis sorciers, de docteurs Purgon. Le pouvoir leur a laissé trop de pouvoir ?
Oui, bien sûr. Je pense qu'on s'est fait avoir pendant cette période. Avoir par les médias, avoir par les médecins, avoir par le pouvoir, bien sûr.
Un abus d'autorité, dites-vous.
Mais un abus d'autorité.
Les scientifiques n'ont rien décidé. À un moment, ils ont dû dire, monsieur le président, si on ne fait rien, il y aura 100 000 ou 200 000 morts.
On les a tous considérés comme les sachants. Les politiques n'ont cessé de nous dire, nous nous en remettons à ceux qui savent, et nous avons nous-mêmes considéré qu'ils savaient. Or, le premier scientifique venu, les plus sérieux d'entre eux, savait qu'il ne savait rien, savait que la science la science médicale n'est pas une science dure, et savait qu'entre les médecins, ce qui domine, c'est la bagarre, c'est la pétarade et c'est la foire.
Et justement, dans l'incertitude, il fallait opter pour la prudence et la précaution.
Mais c'est pas l'impression qu'ils nous ont. D'abord, c'est pas l'impression qu'ils nous ont donné à la télévision. Ils ont parlé avec des arguments d'autorité qui étaient insupportables, premièrement. Deuxièmement, il y a eu quelque chose de terrifiant avec ce décompte des morts quotidiens, avec le patron de la santé publique qui venait comme une pitié triste nous donner tous les soirs le chiffre du jour. Il y a eu là une espèce d'atmosphère de terreur générale, vraiment, qui, je crois, a été une mauvaise action. C'était pas bien. C'est pas comme ça qu'on affronte une pandémie. Il y a eu, pour ça que mon livre s'appelle « Ce virus qui rend fou », je détaille les mécanismes de cette folie, son enchaînement, son emballement. Et je pense qu'on a été saisi par un moment d'égarement collectif.
Oui. J'ai noté une phrase qui affaiblit en partie votre démonstration, page 84. Sans doute n'avait-on pas le choix. Est-ce que ce n'est pas une manière de dire que la mesure qui consistait à assigner tout le monde à résidence
non,
n'était pas mauvaise des décisions?
Oui, non mais quand je dis que sans doute n'avait-on pas le choix, ça veut dire que bien sûr qu'il fallait, face à la pandémie, prendre des mesures. Évidemment qu'il fallait que certains restent chez soi. Évidemment que le port des masques et les gestes barrières ont été très importants pendant ces semaines. Ça, je ne dis pas ça. Les gouvernants ont fait à peu près ce qu'il fallait. Et puis en plus, avec la menace, avec le pétard sur la tempe de tous ces avocats qui les menaçaient d'un Nuremberg du corona, ils n'avaient pas tellement le choix, eux non plus. Parce que n'oubliez pas ça non plus. Il y a eu les toubibs, et puis il y avait les avocats ou les partisans d'une judiciarisation de cette affaire.
Des collectifs,
qui faisaient, oui, des collectifs d'avocats qui faisaient vivre les politiques sous le chantage d'un sang contaminé bis. Bien. Mais ce n'est pas ça que je regrette. C'est la façon dont on a surréagi à ces gestes barrières. La façon dont on s'y est accommodé. Et puis, le type de société, c'est un livre de philosophie. Mon bouquin, c'est un livre de philo. C'est un livre de colère peut-être, mais de philo. C'est le modèle de société qui s'est dessiné à cette occasion qui m'inquiète. Il y a quelque chose qui s'est... Le fameux monde d'après, il a commencé à se dessiner pendant ces 10 semaines et je ne trouve pas qu'il était très sympathique.
Alors justement, voilà, après les décisions... Les commentaires, les journaux de confinement, l'éloge du retour sur soi, l'émerveillement des rues de Paris désertes, ça, c'est une première chose qui vous a beaucoup agacé, Bernard-Henri Lévy.
Oui, l'émerveillement devant les rues désertes, parce que pour moi, Paris, pendant cette saison-là, une ville vide, ça pue la mort. Pardon, mais les villes, c'est pas fait pour être vides. Ça pue la mort, ça pue l'apocalypse, ça pue la guerre ou l'après-guerre. Mmh. Et j'ai trouvé hallucinante cette espèce d'esthétisme de la ville vide qui s'est emparée de mes contemporains.
Ben, c'est-à-dire qu'en temps normal, ça pue la pollution. Donc on peut aussi s'émerveiller.
Eh bien, je suis partisan de réfléchir tout de suite à comment réduire la pollution. C'est tout ce qu'on veut, les voitures électriques, les énergies alternatives. Mais enfin, dire que les hommes sont des virus et que moins il y en a dans les villes, mieux c'est, ça c'est une attitude que je trouve anti-humaniste et anti-républicaine. Donc oui, ça m'a accablé quant à l'état de mon pays, quant à l'état de la société où nous vivons. Par exemple, mais il n'y a pas que les villes vides, il y a bien d'autres choses, la façon dont les écolos, justement, se sont emparés de cette affaire.
Le virus qui nous envoie un message, la nature qui se venge.
Bah oui, mais c'est con. Les virus n'envoient pas de message. Leçon numéro un de tous les historiens des sciences, de tous les épistémologues. Un virus, ça parle pas. Un virus, ça pense pas. Un virus, ça ne vit même pas. Un virus, c'est un profiteur de la mort, c'est pas de la vie. Donc, ça envoie pas de message. Quand Nicolas Hulot dit tout de suite, la nature, le virus, lui, il a dit, la nature nous a envoyé un ultimatum, c'était niais. Et c'était un mauvais message. Et c'était pas responsable.
On peut discuter des conditions de son apparition et de sa propagation, tout de même.
Moi, ce qui... Oui, du virus.
Oui, du virus, bien
naturellement.
Sûr.
Mais ce n'est oui, pas des messages. Les hommes envoient des messages. Les Chinois envoient des messages. Le système communiste ou néo-communiste chinois envoie des messages. Oui, les démocraties libérales ont envoyé des messages. La manière dont on a donné des coups de canif à notre contrat social, ça, c'est un message. Tout ça, c'est des messages. Mais les virus n'envoient pas de messages. Les virus, il faut les traiter. Il faut les cogner et il faut en débarrasser l'humanité. C'est une autre affaire. Il ne faut pas les écouter. Ce n'est pas radio-virus, quoi. Radio-virus, les virus parlent au virus. Le virus-virus qui parle au virus humain qu'on voit trop dans les villes. Enfin, écoutez, tout ça était grotesque. Et on commence, je crois, à s'en rendre compte.
Bernard-Henri Lévy, ce virus qui rend fou. On poursuit cet entretien après une courte pause.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé demain.
C'est arrivé demain, continue jusqu'à 10h avec vous Patrick Cohen.
Avec Bernard-Henri Lévy, ce virus qui rend fou apparaître chez Grasset, vous avez été l'une des rares personnalités à dire très vite sur les réseaux sociaux qu'il fallait écouter et prendre au sérieux Didier Raoult. Et je vous sens un peu plus en retrait aujourd'hui.
Non, je ne suis absolument pas en retrait. Bien sûr qu'il fallait écouter et prendre et considérer professeur Raoult ni plus ni moins que les autres, naturellement.
Ah bon ? Donc c'est ce qui a été fait, non ?
Ben, c'est ce qui a été fait, oui, mais j'ai aucun... Ce qui a été fait, sauf que le cas Raoult, voilà un autre exemple de cette folie, cette espèce de débat dont on a été tous les témoins et les otages entre les raoultophiles et les raoultophobes avait lui aussi quelque chose de ridicule. Bon, Raoult, c'est un grand épidémiologiste. C'est un grand...
Microbiologiste.
C'est un grand... Oui, microbiologiste. C'est un grand médecin. C'est quelqu'un qui... Voilà. Et il y a eu autour de lui, ça c'est vrai, il y a eu une espèce de festival de tartufferie, de jalousie, de fixation sur son personnage et le Depardieu de la médecine, et ainsi de suite. Qu'est-ce que tout ça avait à faire avec l'urgence de sauver des vies, premièrement, et avec l'urgence de faire en sorte que notre démocratie ne sorte pas en calebarde de cette affaire. C'était ça le problème.
Il a été moqué sur son look, sa coupe de cheveux ou son origine marseillaise. Vous êtes sûr de ça ?
Attendez, le Depardieu de la médecine, le druide, je ne sais quel personnage d'Astérix.
Pardon, mais je vous mets au défi de trouver une déclaration publique d'un médecin ou d'une autorité de santé disant cela. Je ne l'ai pas entendu dans les débats médicaux, dans les commentateurs.
Peut-être pas les médecins, ça je n'en sais rien, mais en tout cas j'ai entendu dans ce tintamarre où tout se mélangeait pendant ces semaines, les autorités médicales et les autorités éditorialisantes, oui, il y a eu une espèce de mise sur le pavois, alors certains pour l'exalter et d'autres pour le stigmatiser, de Raoult. Mais ce n'était pas le sujet.
D'autres pour discuter sa pratique et sa méthode scientifique,
oui,
c'était légitime.
Mais tout ça a été tellement pris en otage par la folie du débat et par la folie du monde que regardez, ces études, les unes après les autres, on s'aperçoit qu'elles ont été trop vite faites. L'étude de Lancet, une des grandes autorités foireuses. L'étude Recovery, hier ou avant-hier, oui. On est en train de se rendre compte, je voyais ça ce matin dans la presse anglo-saxonne, que les doses données par les gens qui ont fait les études étaient des doses à la limite du létal. trop élevé.
Donc, ah bah, faudrait savoir, un coup c'est pas assez, un coup c'est trop.
Non, c'est
800 mg, je crois, hein, qui a été donné.
Non, premier jour, 1800, oui, vous verrez les chiffres, oui. 1800 ou 2400, peu importe. Je veux dire par là que, franchement, la folie, le virus qui rend fou, ça veut dire aussi ça. Ça veut dire cet emballement médiatique auxquels se sont prêtés les médecins, mais pas seulement, et qui fait que les chercheurs, parfois, n'avaient pas le temps de réfléchir. Alors, heureusement, il y en a qu'on n'a pas vu à BFM, mais qui bossaient, et qui soignaient, et qui risquaient leur vie pour sauver la vôtre et pour sauver la mienne, et pour sauver nos vies à tous. Mais ce débat autour de Raoult était, mais absurde, et il reste absurde.
C'est pratique qui ont fait débat aussi.
Pardon ?
Ces pratiques ont fait débat. Nécessité un débat médical. Mais enfin, bon, on va clore là-dessus. Revenons à votre livre. Ce virus qui rend fou, ce qui vous a rendu fou aussi, Bernard-Henri Lévy, ou qui vous a mis en colère, c'est l'oubli du monde pendant cette période. Le reste de l'actualité qui a disparu des écrans. De quoi aurait-il fallu parler ?
Attendez, il fallait parler du fait que le monde continuait de tourner. On a passé ces semaines à tourner autour de notre nombril. Et les plus privilégiés d'entre nous. Les autres, les moins privilégiés, à devenir fous dans leur appartement trop petit, avec leurs enfants et avec leur télétravail. Enfin, bon Dieu, pendant ce temps-là, la guerre en Syrie, Daesh, Erdogan et Poutine en train de se partager la Libye, la guerre du Donbass qui continuait, les Ouïghours en Chine qui continuaient d'être massacrés et d'être concentrationnés. L'un des effets de cette pandémie, en effet, c'est que pendant deux mois et demi, on n'a jamais vu ça. Il n'y a pas que l'économie qu'on a mise en apnée, il y a nos consciences. On a vécu dans un univers parallèle, on s'est vidé la tête de toutes les autres considérations du monde. Le monde n'existait plus. Je prends un exemple dans le livre, il y a eu le même jour, alors là pour le coup, un Nuremberg des crimes syriens. Ça, c'est extrêmement sérieux.
En
Allemagne, oui. Un Nuremberg des crimes syriens où on s'apprêtait à juger les pires tortionnaires ou les tortionnaires tout court du régime de Bachar al-Assad. Le même jour, la presse allemande, vous pouvez vérifier, elle s'intéressait au respect des gestes barrières, plus ou moins bien, du Bade-Württemberg. On marchait sur la tête. Voilà. Et ça aussi, cette création de cet univers parallèle vidé de toutes ces tragédies autres que la pandémie, était une erreur. Parce que les bad guys, Trump, il n'a pas perdu son temps pendant cette période-là. Exemple, ça faisait des mois, des années qu'il voulait faire son mur. Ça faisait des mois qu'il voulait bannir les Mexicains et interdire les étrangers de venir sur le territoire américain. Mais attendez, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est appuyé sur la pandémie et pour raison sanitaire, il a tout bloqué. Il est passé le travel ban. Il est passé America First. Et je ne parle pas de Poutine et je ne parle pas des Biélorusses et je ne parle pas de toutes les crapules qui dirigent les États voyous de la planète. Tout cela ont avancé leur agenda pendant que nous, on tenait nos journaux de confinement et qu'on dissertait à l'infini pour savoir, comme tout à l'heure en studio, si on était bien à 1m50 ou à 1m60 avant le début de l'émission.
Non, on n'a pas disserté, on n'a pas mesuré.
Enfin, on s'est demandé.
On s'est demandé.
Moi le premier.
Voilà, on s'est demandé. Oui, oui. Un mot enfin, Bernard-Henri Lévy, à propos du rapport entre le pouvoir, les politiques et les malades. Une anecdote qui m'a intrigué, que je ne connaissais pas. Vous avez vu De Gaulle étreindre des lépreux à Tahiti.
Oui, c'est un très vieux souvenir d'enfance qui m'est revenu pendant l'écriture du livre. J'ai cherché, j'ai retrouvé la trace
56.
De cet événement, 56, deux ans avant son retour au pouvoir. Une scène extraordinaire, mais qui en dit long sur le chemin parcouru. Il y aurait beaucoup à dire aussi sur les églises, sur les synagogues. C'est De Gaulle qui fait un voyage privé à Tahiti, ou semi-officiel, mais enfin, il est dans sa traversée du désert.
Il y a Raoul Folraud, hein, là.
Oui, il est arrêté par une manifestation de lépreux menée par Raoul Folraud. Il arrête sa voiture. Il étreint Raoul Folraud, il serre la main de chacun des lépreux, il prend une enfant lépreuse dans ses bras, il ne dit pas un mot, il remonte dans sa bagnole et il repart. Ça, ce geste claudélien, hein, l'annonce faite à Marie, la jeune fille Violaine qui embrasse un lépreux, ce geste claudélien, c'est vrai, alors je ne sais pas si c'est bien ou mal, moi je trouve que c'est pas bien, on l'a oublié, ce geste-là, parce que je pense que c'est un beau geste et que montrer aux malades qui ne sont pas justement des lépreux, qui ne sont pas des pestiférés, qui ne sont pas des damnés, que leur quarantaine n'est pas une mise au ban, je crois que ça, c'était un message social très important et grand geste, grande scène gaullienne, oubliée souvent, je crois, par les gaullistes eux-mêmes. J'aimerais, Madame Le Pen, qui nous dit des conneries dans le Parisien ce matin, j'aimerais qu'elle médite à des scènes comme celle-là, puisqu'elle prête à l'audace de parler du général de Gaulle.
Merci Bernard-Henri Lévy. Ce virus qui rend fou, votre livre paraît dans quelques jours chez Grasset. Merci à vous.
Merci Patrick Cohen.